grand reportage.
Nous sommes à Kaboul, une ville meurtrie par une criminalité rampante. Dans la capitale afghane, des dizaines de victimes sont recensées chaque jour. Les vols à la tire, vols avec violence, les cambriolages font souvent la une de la presse locale. Face à la pression de la population, les autorités ont déployé sur le terrain une unité de police dédiée à chasser le crime des rues de la capitale. Kaboul, terrorisé par le crime, c'est un grand reportage de Sonia Ghezali.
Ali avait 22 ans. Vous entendez le son d'une vidéo partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. On y voit Ali, perché sur un vélo. Il porte un anorak rouge, une capuche sur la tête. Et il pédale, en danseuse, avec un large sourire, le nez au vent. C'est son ami assis en Amazon, devant lui, qui capture ce moment de joie et d'insouciance avec son téléphone portable. La neige tombe en flocons légers sur les deux jeunes hommes. Ils sillonnent Polesor, un quartier dans l'ouest de Kaboul. Ali a été tué le 4 janvier dernier à quelques pas de chez lui. Tué pour avoir refusé de céder son ordinateur portable à des voleurs. À sa mort, Ali est devenu le symbole des martyrs de la misère dans un pays déchiré par la guerre. Son frère aîné, Abdul Shokour, est en état de choc. Ali occupait l'appartement au-dessus de la maison familiale, dans le quartier de Dasht-e-Barchi. Ici, la majorité des habitants est issue de la minorité Hazara, la communauté chiite du pays. Les ruelles étroites sont recouvertes de neige. Cet hiver est l'un des plus rigoureux qu'ait connu la capitale afghane depuis plusieurs années. Orphelins très jeunes, les frères Sina ont été élevés par leur tante.
C'était la chambre d'Ali Sina. C'est là qu'il vivait, à l'étage. Et voici sa photo.
Un grand portrait sur fond mauve d'un maître sur pied est posé sur le bord de la fenêtre, près d'un carnet à la reliure en cuir marron. À l'intérieur, les notes manuscrites d'Ali, des équations, des formules de calcul, ce sont ses cours de comptabilité. Le jeune homme étudie à l'université américaine de Kaboul, financée par les États-Unis, et connue pour être l'une des meilleures institutions de la capitale. Ali bénéficiait d'une bourse, mais travaillait en plus pour payer les frais de scolarité très élevés. Il rentrait de son travail samedi 4 janvier, lorsqu'il a été poignardé à mort, raconte son frère.
J'étais à la maison. Soudain, ma cousine a frappé à notre porte en criant qu'Ali Sina avait été poignardée. J'ai couru si vite que j'ai vite atteint la rue où il se trouvait. Quand je suis arrivé, mon cousin était déjà sur place pour l'aider. Il l'embrassait, le rassurait. Il a voulu le porter, mais il n'y arrivait pas. Il était lourd. Mon cousin a réessayé, mais il est tombé. Des voisins sont venus nous aider. Moi, je l'ai serré dans mes bras. Il me demandait de l'emmener à l'hôpital.
Et les attaques à main armée, les rackets, sont monnaie courante ici comme partout dans la capitale. Chacun sort de chez soi en ayant conscience de risquer de se faire voler son portable ou son portefeuille.
Hier, cela est arrivé au fils de mon voisin d'en face. Il a été agressé par des personnes qui l'ont frappé avec un poing américain. Ils lui ont volé son téléphone portable. Il était recouvert de sang.
La famille d'Ali attend toujours les résultats de l'enquête ouverte après sa mort. Des personnes ont été arrêtées, leur a fait savoir la police. Rien de plus. Désormais, c'est la tante. Elle accompagne le deuil. Dans son salon traditionnel, assis en tailleur sur de fins matelas posés sur des tapis épais, Abdul Shokour a souvent le regard dans le vide. Face à lui, près du poêle traditionnel, ses enfants dévorent des friandises. Lui reste imperturbable. Fataliste, il porte un regard lucide sur sa société.
Il y a la pauvreté, la misère, la faim, le chômage qui les poussent à la criminalité. Comment un jeune garçon qui n'a pas de travail peut faire pour couvrir ses dépenses? C'est difficile pour lui. Si quelqu'un porte de beaux vêtements, alors que lui n'en a pas, alors il les vole. Il arrête quelqu'un dans la rue et il commet des crimes.
Chaque jour, la télévision apporte des faits divers plus horribles les uns que les autres. Des familles découpées à la hache par des hommes faisant irruption en pleine nuit à leur domicile. Des meurtres pour quelques poignées d'Afghanis. Le sujet est sur toutes les lèvres. Abdul Shukur, frappé de plein fouet par la réalité de la criminalité, est traumatisé. Il ne laisse plus ses enfants ni son épouse sortir une fois la nuit tombée.
Je jure que nous n'avons pas peur des explosions. Nous avons peur de ce genre d'attaque. Nous n'endormons pas la nuit.
Alicina est devenue le symbole de l'insécurité due à la criminalité à Kaboul. La mort inacceptable de trop. La population demande désormais des comptes. Elle ne contient plus sa colère. Et elle le fait savoir sur les réseaux sociaux à travers une campagne de sensibilisation. Avec le hashtag « Kaboul is not safe », « Kaboul est dangereuse », des internautes exaspérés ont décidé d'interpeller les pouvoirs publics afghans. Abdulmalik Hamdar donne rendez-vous dans un café branché de la capitale. À l'étage, enfoncé dans un fauteuil près d'une baie vitrée qui donne sur l'avenue Chalenaou, que certains comparent à l'avenue des Champs-Élysées pour ses multiples échoppes de fruits secs ou vitrines couvertes de luminaires multicolores. Ce militant de la société civile est âgé de 28 ans. Son visage est bien connu en Afghanistan. Après avoir perdu ses frères tués par les talibans, il a été parmi les premiers marcheurs pour la paix, nom d'un mouvement pacifiste de marcheurs qui ont sillonné le pays pour aller à la rencontre des talibans afin de les convaincre de signer un accord de paix avec les autorités afghanes. Il vit à Kaboul depuis un an et demi. Abdulmalik Hamdar connaissait personnellement Alicina. Les deux jeunes hommes travaillaient pour la même société. Il est l'un des instigateurs de la campagne « Kaboul is not safe ».
Je me suis senti si mal de voir que chaque jour, nous, nos jeunes sont sacrifiés juste pour un ordinateur portable, un téléphone portable. La mort d'Ali a provoqué une grande douleur. Ça m'a rendu très triste. Parce que c'était une personne adorable avec une bonne mentalité. C'était un jeune qui s'intéressait à l'éducation et qui travaillait. Tout cela m'a donné la motivation pour réclamer au gouvernement qu'il trouve ces assassins. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des tracts avec des dessins que j'ai réalisés et je les ai postés sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Je me suis dit que les gens devaient réfléchir et se dresser contre tous ces voleurs, mais aussi élever leur voix pour pousser le gouvernement à faire quelque chose, à agir contre la criminalité.
Sur sa page Facebook, Abdulmalik Hamdar poste des dessins, des caricatures qu'il réalise. Il incrimine les autorités et leur incompétence dans la lutte contre le crime.
Quand cette campagne a commencé, je n'étais pas seul. D'autres personnes se sont jointes à moi parce qu'elles étaient aussi concernées. Elles souffraient aussi de cette situation. C'est pourquoi beaucoup de gens ont participé à cette campagne. Il y a eu un impact puisque la police est sortie de ses commissariats et de son quartier général pour aller patrouiller et faire des interventions contre des criminels. Ils ont arrêté quelques voleurs. Mais cela ne doit pas être qu'une simple démonstration de force temporaire pour calmer la colère des habitants. Ils doivent continuer à maintenir ces opérations. Nous voulons que le gouvernement poursuive ses efforts et aille au bout des enquêtes.
Des dizaines d'arrestations, en effet, ont eu lieu en l'espace de quelques semaines. Des coups de filet médiatisés. Mais personne ne semble être dupe. Certains quartiers ont vu leur taux de vol avec violence exploser. Ils sont gangrénés par des mafias locales, dont les ramifications vont jusque dans les ministères, disent certaines sources sécuritaires, et certains politiciens se couvrent d'anonymat. Si le combat contre l'insécurité est une montagne, le militant de la société civile se refuse à abandonner.
Je ne suis jamais en paix. Je suis conscient en permanence que je vis dans cette société où je ne me sens pas en sécurité, car il n'y a pas que ce problème de criminalité. Si, nous avons la guerre, nous avons la violence en permanence. C'est pour ça que je ne me sens jamais en sécurité. J'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes parents, mes amis. C'est pourquoi j'élève ma voix, pour que le gouvernement apporte des changements afin que la sécurité règne dans notre société. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette lutte. Je ne veux pas subir cette situation sans rien faire. C'est pour cela que je me bats.
La réponse du gouvernement est arrivée quelques jours plus tard. Le ministère de l'Intérieur a annoncé des patrouilles de police supplémentaires pour renforcer les commissariats de la capitale dans leur lutte contre le crime. 300 véhicules de plus pour lutter efficacement contre la criminalité. Depuis leur mise en place, lorsque la nuit tombe à Kaboul, un balai étrange commence. D'imposantes jeeps noires, équipées de gros gyrophares bleus, en file indienne, sillonnent la ville. Les véhicules s'arrêtent au barrage de police, installé sur les axes routiers, dans les différents quartiers de la capitale. À bord de l'un des véhicules, sur le siège passager avant, le général Ismatoulani Zad, Tokiwoki dans la main. Cet homme est le bras droit du chef de la police de Kaboul. Depuis le début de la campagne sur les réseaux sociaux, le général Ismatoula est sur le pont toutes les nuits. Il participe aux patrouilles, demande des comptes aux agents sur le terrain. Cette nuit, il fait arrêter sa voiture dans le quartier de Wazir Akbar Khan et retrouve ses hommes postés à un barrage.
Comment ça se passe au barrage? Vous avez trouvé quelque chose?
Wazir Akbar Khan est un quartier central de Kaboul. C'est le plus sensible. Plusieurs ambassades étrangères ainsi que le palais présidentiel se trouvent ici, derrière de hauts murs de béton armé censés protéger des explosions. La zone est régulièrement visée, menacée par les groupes armés comme les talibans ou le groupe État islamique. La sécurité y est déjà renforcée, mais la police a décidé d'ajouter un nouveau point de contrôle.
Ce barrage que vous voyez vient d'être installé. On arrête tous les véhicules sans exception, on les fouille et on vérifie l'identité des passagers.
Au milieu de la route, plusieurs policiers en tenue militaire couleur taupe, vêtus de gilets pare-balles et d'un casque, scrutent toutes les voitures qui passent. Leur M16, un fusil d'assaut américain à l'épaule, ils leur somment de s'arrêter. L'un d'eux fait signe à une Toyota Corolla blanche. Le conducteur s'arrête à son niveau. Le policier se dirige vers l'arrière de la voiture, ouvre le coffre. Et il passe au véhicule suivant.
Je vérifie que cette voiture ne transporte pas d'explosifs, d'armes ni de drogue. J'essaye aussi de repérer les comportements suspects.
Si les médias locaux parlent d'une recrudescence inquiétante de la criminalité, les chiffres sont difficiles à vérifier. À quel organisme se fier dans un pays où les statistiques sont quasi inexistantes? Mais le climat dans la ville est lourd. Nombreux sont ceux qui ont renoncé à s'aventurer dehors lorsqu'il fait nuit. Plus concrètement, l'hôpital Emergency de Kaboul a lui des chiffres, ce qui correspond aux patients soignés après des agressions. L'établissement est géré par une ONG italienne et n'est censé accueillir que des blessés de guerre. Pourtant, depuis plusieurs mois, l'équipe médicale a dû faire de la place aux blessés par balles et par armes blanches.
De plus en plus de patients sont admis dans notre hôpital pour des blessures liées à la criminalité. Environ 350 ont été admis en 2019 et le même nombre a dû être renvoyé vers des hôpitaux publics car nous n'avions pas assez de lits pour les accueillir.
Dejan Panik est le coordinateur de l'ONG Emergency en Afghanistan. Il nous invite à le suivre dans la salle de soins. Il se dirige vers un lit dans lequel un jeune homme est allongé et saisit son dossier médical.
Ce patient a été admis dans notre hôpital suite à une blessure par balle. La balle est entrée dans l'abdomen et est ressortie. À présent, son état est stable. Il est en convalescence après avoir subi de lourdes opérations chirurgicales.
Raouzatullah a 20 ans. Il a été admis quelques jours avant.
Moi, vous êtes mécanum ?
J'assiste les médecins lorsqu'ils font des visites médicales à domicile. J'avais fini ma vacation, j'étais en train de rentrer chez moi. Il était 19h30 quand je suis arrivé dans la rue de l'école à Kartenau. J'avançais sur le chemin et soudain on m'a tiré dessus par derrière. Je suis tombé par terre. Deux personnes sont arrivées sur moi et m'ont pris mon portable et ce que j'avais dans les poches. Je suis resté au sol quelques temps. Un chauffeur de taxi m'a vu, il m'a secouru. Il a appelé mes frères et quand ils sont arrivés, ils m'ont amené ici.
Raouzatullah a échappé de peu à la mort. Son agression n'était pas la première. Le jeune homme a fait face à plusieurs vols à la tire ces dernières semaines, avant la dernière en date, à l'origine de son hospitalisation.
Je suis personnellement confronté à ce problème depuis un mois. On m'a déjà attaqué 4 fois pour me voler mon téléphone portable et mon argent. Mais je ne suis pas une exception, ça arrive à tout le monde. Je travaille jusque tard le soir et quand je rentre, il fait nuit. C'est à ce moment que c'est dangereux. Les 3 premières fois que j'étais agressé, ils ont pris mon portable et mon argent. Mais ils ne m'ont pas fait de mal. La 4e fois, ils ont pris mon portable, mais ils m'ont aussi attaqué.
De ces agresseurs, il ne sait rien. Juste qu'ils ont pris la fuite.
Ils se sont échappés. La police est incapable de les retrouver. C'est ce que je regrette pour nous tous. Si la police était devant moi, là, je le dirais haut et fort. Je dirais qu'ils ont des liens avec les voleurs, qu'ils jouent aux jeux de société et qu'ils dorment dans leur bureau. Ils sirotent du thé, ils font tout sauf arrêter les voleurs. Et quand ils les arrêtent, c'est pour les relâcher juste après.
Le jeune homme ne cache pas sa défiance à l'égard de la police. Il ne leur fait pas confiance. Et il n'est pas le seul. En Afghanistan, la corruption endémique touche tous les secteurs, y compris celui de la police, censé assurer la sécurité de la population. De nombreuses victimes d'agressions ne songent pas un seul instant à porter plainte. C'est inutile, dit la plupart des victimes, qui préfèrent panser leurs plaies en silence, en espérant, lorsqu'elles survivent, ne plus jamais croiser leurs agresseurs.
Kaboul terrorisé par le crime, un grand reportage de Sonia Ghezali, réalisation Pierre Chaffangeon.